François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po et avec vous ce soir, on va non pas parler de désinformation, mais plutôt de déformer l'information. Et on va prendre comme exemple, et vous l'avez fait très récemment sur votre page Facebook, d'une dépêche de l'agence France Presse qui avait pour titre « 4 Palestiniens tués en Cisjordanie ». Qu'est-ce qui vous a fait réagir dans cette dépêche de l'agence France Presse ?
Comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous, je lis le matin le journal et je lis le fil d'actualité en fait qui apparaît sur Le Figaro, Libération ou Le Monde quand vous êtes abonné à ces journaux en ligne. C'est le fil de l'AFP, donc vous avez les dépêches AFP qui tombent régulièrement, celles que vous utilisez souvent pour vos journaux. Et donc hier matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner tranquillement et je vois un titre d'info, 4 Palestiniens tués en Cisjordanie. Je me dis bizarre, donc je clique sur la dépêche et le premier paragraphe est le suivant. 4 Palestiniens ont été tués mardi lors d'une incursion de l'armée israélienne dans une localité du nord de la Cisjordanie occupée, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et des sources militaires israéliennes. Et là, la dépêche, quand vous ne la développez pas, s'arrête là. Et je me mets à la place de tout bon Français qui lit ces dépêches le matin ou qui les entend sur France Info. Sur France Info, ils ont repris ce titre et ce qu'on appelle un chapeau, ces 4 premières lignes, et bien, rien de plus. Et si vous arrêtez là, vous vous dites, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, « Ah, ces horribles Israéliens, ils vont tuer des Palestiniens en Cisjordanie occupée, sans raison. » Et si vous êtes un peu anti-israélien, vous dites « pour le plaisir, évidemment ». Et cette brève d'actualité est donc apparue sur le fil du Figaro, du Monde, de Libé, puis reprise dans les brèves de toutes les radios et des télés, c'est les bandeaux qui passent au fil qui se déroulent sur vos écrans de télévision. Mais si vous retournez un peu plus tard, ce que j'ai fait, je suis allé, parce que j'étais un peu curieux, parce que je me suis dit « évidemment, c'est une information qui est, comme vous l'avez dit en introduction, déformée et non pas complète ». Un peu plus tard, la dépêche est complétée. Et voilà ce qui a été dit dans la dépêche de l'AFP. Ils ont été tués lors d'affrontements qui ont éclaté avec une force israélienne, effectuant une incursion dans la localité d'Azoun, près de la ville de Qalqilia, selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Le ministère de la Santé et de l'autorité palestinienne a confirmé leur décès. Alors, tout d'abord, ce qu'ils disent, des affrontements. Alors vous dites, non, c'est pas juste, ils tuent pas des Palestiniens comme ça dans la rue qui passent, c'est des affrontements. Donc il y a eu des combats, mais ils développent pas tellement sur les combats. Et puis, sursauter si vous connaissez un peu la région, parce que Qalqilia, c'est après les accords d'Oslo, c'est passé sous la juridiction de l'autorité palestinienne, donc c'est la zone A, donc c'est en Cisjordanie palestinienne non occupée, contrairement à ce qui avait été dit plus tôt que c'était en Cisjordanie occupée. Et puis si vous revenez à la dépêche que j'ai fait le soir, plus tard, elle n'a pas disparu du fil d'actualité et elle est complétée par ce qui apparaît comme la réalité. Et voilà ce que vous lisez sur la dépêche, parce qu'ils complètent les dépêches faites au fur et à mesure. Au cours d'une opération antiterroriste à Azoun, des terroristes ont ouvert le feu et jeté des explosifs sur nos troupes, a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué. Elle a indiqué que les soldats avaient abattu 4 terroristes lors d'un échange de tirs. Un soldat a été blessé dans les affrontements, a-t-elle ajouté. Et pour vérifier, je me suis donc tourné vers Haaretz en anglais, sur le site internet d'Haaretz, qui pourra avoir des faits un peu plus précis. Et en anglais, c'est à peu près la même chose. Ils disent que l'armée israélienne confirme que l'armée israélienne a tué 4 Palestiniens armés, qu'elle a saisi sur eux 3 fusils mitrailleurs Carlo, et un officier israélien de Tsahal a été légèrement blessé lors de cet affrontement. Et donc le complément de l'AFP est cohérent avec Haaretz, mais il n'est fait aucune mention des armes, et non plus qu'un officier de Tsahal a été blessé dans ses combats contre des terroristes en armes. Par contre, à ce complément, il s'empresse de rajouter à ce moment-là un paragraphe qui sort un peu de nulle part. Et voici le paragraphe qu'il rajoute dans la dépêche AFP. « La Cisjordanie occupée connaît une forte recrudescence des violences depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre. Depuis cette date, au moins 321 Palestiniens y ont été tués par des soldats et dans certains cas par des colons israéliens selon un décompte du ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Donc, qu'est-ce que vous lisez ? C'est que 320 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée, à nouveau occupée, là où la plupart des combats ont lieu dans des territoires autonomes palestiniens, comme Jenin, Qalqilia, Naplouse, sans aucune présence israélienne. 321 Palestiniens tués, lors de combats qui opposent l'armée israélienne à des cellules du Hamas, puissamment armées, et qui préparent des attentats terroristes en Israël. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que 1300 terroristes liés au Hamas ont été arrêtés dans les territoires palestiniens autonomes depuis 3 mois. Donc l'AFP, c'est l'art de raconter une histoire orientée, non d'informer, et comme vous l'avez si bien dit en introduction, c'est surtout l'art de déformer.
Alors, autre actualité, on le sait depuis hier, le numéro 2 du Hamas, Salah al-Houri, a été éliminé dans une explosion à Beyrouth, au cœur de Beyrouth et au cœur du quartier du Hezbollah. Et alors, il y a énormément de réactions et parmi ces réactions, celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec l'un des ministres du cabinet de guerre, Benny Gantz. Et Emmanuel Macron a demandé à Benny Gantz et à travers lui à Israël d'éviter l'escalade, notamment au Liban. J'ouvre une parenthèse, François Heilbronn. Pourquoi Emmanuel Macron a téléphoné à Benny Gantz et pas à Benjamin Netanyahou? Peut-être est-ce aussi une façon de préparer l'après Netanyahou.
Ou peut-être Netanyahou veut plus prendre Macron au téléphone.
Aussi,
c'est une possibilité. Et oui, et là, à nouveau, l'art de déformer. Comme vous l'avez indiqué, Salah al-Houri, haut représentant du Hamas à Beyrouth et numéro 2 de l'organisation, est impliqué très directement dans la préparation des attentats meurtriers et les massacres horribles du 7 octobre, a été éliminé par Salah dans une attaque très ciblée au sud de Beyrouth. Et ce qui est étonnant, c'est pour ça que je dis l'art de déformer, pourquoi le chef de l'État a souligné qu'il était essentiel d'éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban? Ça peut paraître d'un bon principe, on est pour la paix, on est pour que la guerre ne s'embrasse pas, on est pour qu'il n'y ait pas de conflit direct entre Israël et le Liban, tout ça était des bonnes choses. Mais j'aimerais rappeler ce que le président Macron a déclaré le 24 octobre, quand il s'est rendu en Israël et quand il s'est entretenu avec le premier ministre israélien Netanyahou. Il avait déclaré la chose suivante: rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais celle aussi de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi que la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Donc le 24 octobre, il est très guerrier, très martial dans son ton, et de manière très légitime. C'est-à-dire que cette déclaration m'a paru tout à fait pertinent, puisque la comparaison Hamas-Daesh est pertinente, rappeler que le Hamas veut la destruction d'Israël, et il donne en fait une carte blanche totale à Israël à ce moment-là pour détruire l'organisation militaire du Hamas, que Israël fait depuis la fin octobre, notamment à Gaza, mais pas seulement à Gaza, et la frappe d'hier qui ne visait pas des civils, puisque ça a tué Salah al-Houri, mais aussi un certain nombre de ses conseillers et gardes du corps, est une frappe pour éliminer et détruire le Hamas, comme le souhaitait le président Macron le 24 octobre. Donc, déformé, puisque maintenant, il se précipite sur son téléphone, appelle Benny Gantz pour se plaindre et pour éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban. Et je voudrais rappeler aussi sur le Liban, ce qu'il déclarait Emmanuel Macron le 24 octobre en Israël: cette lutte, nous devons aussi la conduire en veillant à éviter l'embrasement de toute la région. Je mets ici en garde le Hezbollah, le régime iranien, les Houthis au Yémen et l'ensemble des factions qui, dans la région, menacent Israël de ne pas prendre le risque inconsidéré d'ouvrir de nouveaux fronts. Il avait raison de faire cette annonce, cet avertissement, mais ni le Hezbollah, ni le régime iranien, ni les Houthis au Yémen ne l'ont écouté, puisque le Hezbollah ne cesse de tirer depuis lors sur le nord d'Israël, les Houthis au Yémen tirent sur les bateaux en mer Rouge, et le régime iranien continue d'alimenter ces différents mouvements terroristes, y compris en Syrie, en favorisant des frappes à partir de la Syrie sur Israël. Donc Emmanuel Macron aurait dû envoyer ou appeler Benny Gantz pour le féliciter de cette attitude et de cette action à Beyrouth et féliciter Israël de mettre ainsi et affaiblir ainsi le mouvement terroriste Hamas. Donc à nouveau, une déformation ce n'est pas la bonne phrase que Emmanuel Macron a prononcée hier.
Alors, on va rester sur cette déformation. On a appris hier également la démission de la présidente d'Harvard qui a démissionné après de nombreuses polémiques et notamment après cette audience au Congrès, devant le Congrès des États-Unis, des trois plus grandes présidentes des plus grandes universités américaines, UPenn pour l'Université de Pennsylvanie, la présidente d'Harvard et la présidente du MIT. Alors la présidente de UPenn de Pennsylvanie a démissionné dans la foulée de cette audition au Congrès. Ça n'a pas été le cas pour la présidente du MIT et de Harvard. Et puis finalement, la présidente d'Harvard, dont vous êtes un ancien d'Harvard, a publié une lettre expliquant les raisons de sa démission, mais qui n'a rien à voir avec cette audience au Congrès et l'antisémitisme qui a lieu sur les campus américains.
Alors, en tant qu'ancien d'Harvard, j'ai reçu une lettre du président d'Harvard hier soir, Mme Claudine Gay, le mardi 2 janvier à 19h27, et j'ai lu avec grand plaisir la première phrase de cette lettre. C'était en anglais évidemment, donc je vais le traduire pour vos auditeurs en français. C'est avec un cœur blessé, mais avec un amour profond pour Harvard, que je vous écris pour vous dire que je démissionne comme présidente de cette université. Alors, elle explique. Alors, je dis bon, ça c'est bien. Voilà une bonne nouvelle. Elle est au moins elle a la même dignité que la présidente de l'université de Pennsylvanie. Elle comprend que ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, et ce qu'elle a dit ou est-ce qu'elle n'a pas dit, l'ont conduit à sa démission. Eh bien non, la lettre est assez longue, elle fait une page entière, et elle dit qu'en fait, Harvard depuis quelques mois est divisé sur des querelles, des tensions qui ont affecté la communauté d'Harvard, qui ont affaibli les liens et la confiance réciproque que ceux qui supportent Harvard, ceux qui travaillent à Harvard. Et elle a vécu une crise absolument horrible. Et puis en plus, elle a été victime d'attaques personnelles et des menaces d'un racisme absolument épouvantable. Et que donc, face à ces tensions et à ces différentes tensions, elle a décidé de reprendre sa carrière d'enseignante et de retourner à l'enseignement et de ne plus assurer la présidence de cette université à qui elle souhaite le meilleur. Et pour conclure, c'est de plus en plus une déformation, elle espère que sa présidence courte, parce que sa présidence aura duré moins de 4 mois, quand avec le temps on la remesurera, on pourra remarquer que c'est une présidence qui a permis de renouer une humanité commune pour tous les membres d'Harvard. Donc, il y a une négation totale des incidents antisémites, de l'appel au terrorisme, de l'apologie au terrorisme qu'il y a eu sur le campus. Il y a un oubli total de ce qui a conduit à cette démission un peu forcée par le Board of Trustees qui a eu marre de perdre des donateurs et de se faire condamner par le monde entier. Il y a des donateurs qui ont retiré plus d'un milliard de promesses de dons à l'Université d'Harvard. Et donc ça, elle le nie. Et puis, à 19h40, donc 13 minutes plus tard, j'ai reçu une lettre du Board of Trustees d'Harvard. Donc c'est un peu le conseil d'administration honorifique qui gère Harvard, dont la présidente est Penny Pritzker, qui est une ancienne ministre de Obama, qui est juive, qui est de la grande famille Pritzker, qui est propriétaire des hôtels Hyatt, et qui écrit une lettre à peu près du même topo, qui d'abord dit que c'est avec énormément de tristesse qu'ils acceptent la démission de la présidente Claudine Gay, et dit que dans les derniers mois, Harvard a été soumis à des pressions terribles, et des challenges terribles, et énormément de controverses et de conflits, et que face à ça, la pauvre présidente Gay a été, elle, victime d'attaques racistes absolument insupportables qu'il faut condamner, et il décide de nommer le provo, qui est en fait le numéro 2 d'Harvard, comme président par intérim. Alors, ce qui me frappe en termes de déformation, c'est qu'à aucun moment, ni Claudine Gay, ancienne présidente d'Harvard, et le Board of Trustees ne reconnaît que c'est les actes antisémites et la propagande antisémite sur le campus et le manque de réaction d'Harvard qui sont un problème. À aucun moment, ils reconnaissent que le fait que devant le Congrès américain, Claudine Gay n'a pas voulu condamner les appels au génocide et elle dit que ça dépendait du contexte. Et troisièmement, elle aussi n'évoque pas du tout les soupçons de plagiat qu'elle a eues dans la rédaction de sa thèse. Et elle n'exprime à aucun moment aucun remords sur les erreurs qu'elle a pu commettre. Et donc, un nouveau. C'est une déformation de la réalité. Et d'ailleurs, on en voit les échos aujourd'hui. Il y a un article du Monde sur cette démission qui parle principalement et qui reprend le verbatim de la présidente Claudine Gay, que surtout, elle n'a pas pu gérer les tensions et qu'elle a surtout été victime de racisme. Donc, c'était déformer la vérité. Ça a été fait par l'AFP, ça a été fait par Emmanuel Macron, ça a été fait par Harvard. Trois normalement, personnalités, institutions qui devraient avoir un souci de la vérité. Je rappelle que la devise d'Harvard, devise qui me plaisait quand j'étais étudiant et qu'on voit inscrit au fronton de la bibliothèque, c'est « veritas ». C'est du latin, mais c'est facile à comprendre. C'est « vérité ».
François Heilbronn, professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.